venez de donner, Dieu vous le rendra.
Comme l'identité réunionnaise fait partie des sujets traités sur ma chaîne, YouTube m'a recommandé cette vidéo intitulée « Enquête, Zoraya à la Réunion, pourquoi l'intégration reste un sujet sensible ?» La chaîne s'appelle ANK pour « Aste à nous cause », c'est-à-dire en français « Et si nous parlions » en gros. J'ai tout d'abord été interpellé par le nombre de vues, 35 000, ce qui est colossal pour une chaîne locale. C'est d'autant plus conséquent que c'est une chaîne toute nouvelle créée en avril 2026. Vous connaissez mes méthodes. Quand je commande des vidéos, j'aime bien procéder par étapes et commenter au fur et à mesure en avançant dans la vidéo. Cela me permet d'analyser les procédés rhétoriques utilisés par leurs auteurs et de comprendre petit à petit où ces derniers cherchent à nous emmener. Avant de commencer, mon avis général sur la réalisation. C'est très professionnel et qualitatif. On sent que le projet a été bien étudié et que les moyens sont lourds en termes de production. Je sais pas qui est derrière le financement de cette chaîne, mais on n'est pas dans un YouTuber du dimanche comme moi, ça c'est certain. Bref, commençons avec le titre. Un premier mot m'interpelle immédiatement. Intégration. Il m'interpelle car le terme intégration est généralement un terme qu'on utilise quand cela concerne les étrangers. Or, un Zoraya n'est pas un étranger. Est-ce qu'on dit d'un Réunionnais qui va s'installer en métropole qu'il s'intègre ? Non. Même s'il n'a pas tous les codes et particularismes régionaux, le Réunionnais qui s'installe en métropole n'a pas à s'intégrer. Il a déjà les codes culturels, la langue, l'histoire, les valeurs, etc. L'usage du mot « intégration » n'est pas neutre. En utilisant ce mot, le vidéaste crée une frontière artificielle entre les citoyens. Cela place d'emblée le métropolitain dans la position de l'étranger de l'intérieur.
Et avant tout, sachez que notre démarche est sincère et n'a pas vocation à faire polémique. Au contraire, le but est de vous donner la parole.
Leur vidéo commence par un disclaimer. C'est toujours un moment fascinant dans une vidéo. Quand quelqu'un ressent le besoin d'annoncer sa propre neutralité, c'est généralement le signe qu'il a bien l'intention de remuer le couteau dans la plaie.
Maintenant ça va chier.
Ils installent un cadre où ils veulent paraître bienveillants tout en traitant un sujet ultra polarisé. Ils se drapent dans une posture de médiateur alors qu'ils sont, de fait, les architectes du récit. Bon, pour être honnête, j'avoue utiliser cette méthode moi-même parfois, donc je leur jetterai pas la pierre. Ensuite, ils égrènent des propos particulièrement insultants et haineux, visant les oreilles. Des propos glanés ici et là sur les réseaux sociaux.
Zoraya Island à force.
Zoraya dehors.
Bouge, Zoraya la m***.
Pourquoi doubler les commentaires ? Pourquoi leur donner une voix, une intonation et donc une existence physique dans la vidéo ? Plutôt que de simplement les afficher ou les citer de manière distante.
Moi je sais.
En les mettant en scène, ils ne font pas qu'observer la haine. Ils l'amplifient pour mieux pouvoir construire leur argumentaire autour. Attention, pour l'instant, on ne sait pas encore s'ils vont dénoncer ces propos ou chercher à les justifier. Mais mon petit doigt me dit que le climat qu'ils installent et cette mise en scène serviront plus tard à justifier la haine. Aussi, pourquoi en citer 15 ? En multipliant les exemples à l'excès, ils cherchent à créer un effet de généralisation. Le spectateur, après avoir entendu 15 commentaires haineux, ne se dit plus « il existe des gens haineux ». Il se dit « ah, voilà ce que les Réunionnais pensent des oreilles ». C'est un sophisme par échantillonnage biaisé. Ils choisissent délibérément le pire du pire pour le présenter comme la norme, l'état d'esprit général. J'ai déjà traité ce sujet sur ma chaîne. J'ai laissé la parole à tout le monde. Résultat, dans les commentaires, la haine ne représentait même pas 5% des messages. Alors quand je vois ANK en sortir 15 à la suite, avec des voix doublées, des effets sonores, je me demande, est-ce qu'ils essaient de comprendre les Réunionnais ou est-ce qu'ils essaient de leur faire dire ce qu'ils ont envie d'entendre ? Après la lecture des 15 commentaires, un des trois journalistes enchaîne avec cette phrase.
Des mots durs, parfois violents, qui traduisent un malaise bien réel.
Cette respiration est une technique connue dans le milieu journalistique. On l'appelle une pause dramatique. En marquant un silence avant « bien réel », le locuteur détache le groupe nominal du reste de la phrase, le rendant ainsi beaucoup plus percutant. Bref, parfois violent, dit-il.
What ?
Ils viennent dégrainer 15 commentaires tous plus violents les uns que les autres, et là, ils parlent de « parfois ». C'est lesquels les messages raisonnables et nuancés dans la liste ? En disant « parfois », ils créent une zone de flou qui permet de dire « bon, il y a la colère, certes, mais c'est compréhensible ». Ils ne qualifient pas les propos, ils les rendent acceptables par l'usage du lexique. Ils sont clairement en train d'installer un climat. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils préparent le terrain pour nous expliquer plus tard que cette violence des propos est compréhensible. Ensuite, ils enchaînent avec une vidéo d'Hugo Délire qui a défrayé la chronique à l'époque.
Plage de Saint-Pierre, c'est cool, t'es là depuis hier tranquille, et on vient de casser les couilles. Dès le matin, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais par contre, avant, il y a le respect humain. Et ça, le respect humain, ici, les gens, ils connaissent pas le respect humain, apparemment.
En effet, ce mec semble être un sombre abruti qui n'a pas spécialement l'air de respecter les Réunionnais. Juste après, NK diffuse un extrait des influenceurs Monsieur et Madame Sucré, filant des conseils à ceux réfléchissant à venir s'installer dans l'île. En fait, ils sont en train de construire un dossier à charge. Dans un premier temps, l'accumulation de commentaires haineux qui laisse croire un sentiment généralisé. Dans un deuxième temps, l'amalgame avec le métropolitain connard. Et dans un troisième temps, les influenceurs bienveillants qui, malgré eux, contribuent à l'envahissement de l'île. Avec cette connasse, on en est au troisième exemple négatif.
On vient d'arriver à Saint-Pierre. Comment dire ? C'est archi moche. C'est trop moche, Galice. Genre, je suis choquée. J'ai pris bien 5 minutes parce que je pensais grave que c'était trop mince, genre. En fait, genre, ça restait quand même hyper dépaysant et tout. Un peu tropical.
Le problème, c'est que.
Mais là, c'est tellement quiet.
C'est fascinant. Il cherche à nous convaincre qu'il y a un malaise bien réel concernant les métropolitains. Et pour le prouver, il ne nous montre que des gens qui, objectivement, ont des comportements problématiques. Est-ce que ça veut dire que le métropolitain lambda qui travaille, qui vit, qui respecte l'île est invisible pour eux? Ou est-ce que ça ne les intéresse tout simplement pas parce que ça ne sert pas leur narratif de la division?
Moi je sais!
On est déjà à 6 minutes de vidéo. Ils ont balancé des noms, des extraits de vidéos, des commentaires haineux. Ils ont construit une caricature totale et là, ils nous sortent le couplet du journaliste professionnel qui a essayé de contacter les intéressés.
Nous avons tenté de contacter plusieurs de ces créateurs afin de recueillir leurs paroles, mais aucun n'a souhaité répondre à nos sollicitations.
C'est le culot ultime. Ils font le procès à charge, ils accusent, ils condamnent, et ils se plaignent que les accusés n'ont pas voulu venir s'asseoir à la barre pour se faire massacrer.
C'est honteux !
C'est pas du journalisme, c'est de la mise en scène de tribunal populaire. Regardez ce passage.
Moi, mais les musulmans, ben, mais ça passe un gilet aussi par rapport à ça. Parce qu'on y connaît que si nous sommes à la plage, mon madame les voilée, et on aura des critiques. Donc nous préférons rester là, et puis nous connaît que le créole juge pas.
Mais quel mytho. Déjà, il sous-entend que la plage serait la chasse gardée des oreilles, ce qui est un premier mensonge. Tous les Réunionnais vont à la plage, quel que soit leur âge, leur classe sociale, leur origine ethnique ou géographique. Deuxième mensonge, ce n'est certainement pas à cause du regard des oreilles que tu n'y vas pas. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo. En effet, l'islam bénéficie d'un regard différent à La Réunion et il est intégré dans le tissu social et économique de l'île. Là où il ment par omission, c'est quand il ne dit pas que la plage est un lieu à part à La Réunion. C'est un lieu de liberté totale, de nudité et d'insouciance où toutes les étiquettes sociales et religieuses s'effacent. C'est pas le regard des oreilles son problème. C'est un mode de vie qu'il rejette par conviction religieuse. En 46 ans de vie, je n'ai jamais vu une seule femme voilée sur la plage à La Réunion, ni aucune marque ostentatoire de pratique religieuse, quelle qu'elle soit. Mais voilà, il est plus facile de pointer du doigt une prétendue hostilité extérieure pour justifier son propre obscurantisme et repli communautaire. La réalité, c'est que sur une plage réunionnaise, tout le monde le regarderait de la même manière. Pas parce qu'il est musulman, mais parce que son accoutrement et sa posture sont aux antipodes de l'esprit des lieux. Il se sent jugé, certes, mais il est jugé par la norme collective, celle de tous les Réunionnais qui, quelle que soit leur origine, partagent le même respect pour la liberté individuelle propre à cet espace. Vous voulez savoir si ce reportage est neutre? Regardez qui ils invitent à parler. Ils donnent une tribune à Avocha, un humoriste sans envergure connu pour son discours racialiste et son engagement explicite contre les métropolitains, qui a récemment signé cette tribune infâme sur le privilège d'oreille à La Réunion. Quand on invite quelqu'un qui a signé une tribune appelant au rejet d'une partie de la population, on ne fait pas du journalisme, on fait du militantisme. Et le plus grave, c'est qu'ils essaient de vous faire croire que c'est la voix du bon sens réunionnais. Avocha, ce pseudo-humoriste, est en réalité un réunionnais frustré, qui vit chez les oreilles à Toulouse, mais qui prône le repli identitaire quand il évoque La Réunion, en ressortant les sempiternels clichés mensongers sur le supposé privilège d'oreille à La Réunion. J'ai déjà consacré une vidéo à ce mec. Il ment comme il respire.
Malheureusement, ça revient aussi souvent dans nos discussions parce que les oreilles sont ceux qui cristallisent ce comportement néocolonial. Tous les oreilles ne sont pas néocoloniaux. Mais par contre, le système dans lequel ils arrivent favorise leur comportement néocolonial. C'est ça le truc.
En fait, on sait très bien où il veut en venir. Oreilles d'or. Arrête de faire ta danseuse. Tu es un xénophobe, mais tu n'oses pas l'assumer ouvertement. C'est pourquoi tu cherches à le justifier. Ça, je l'ai déjà débunké dans ma vidéo sur le fameux privilège oreilles. Le coût du réseau dont bénéficieraient les oreilles, C'est non seulement un prétexte pour justifier la xénophobie, et c'est même le contraire. Il y a bien des réseaux à La Réunion. Ce sont les créoles les premiers bénéficiaires. Un exemple concret, la Sécurité sociale et la CAF. Je prends ces deux exemples car je les connais très bien. J'ai littéralement grandi dans la Sécurité sociale de Saint-Denis. Mes parents y ayant travaillé pendant 40 ans. Et j'ai d'autres gens dans ma famille qui ont travaillé à la CAF, à l'époque au centre-ville de Saint-Denis, près du Jardin de l'État. Déjà, à la Sécurité sociale, la quasi-totalité des employés est créole. Je peux vous dire que tous ou presque se servaient de leur réseau pour y faire entrer leur famille. J'ai moi-même eu des CDD à la Sécurité sociale et à la CAF grâce au piston. Et là, je ne parle que de ces deux organismes. C'est pareil dans toutes les administrations à La Réunion. Les réunionnais se cooptent et s'échangent leurs bons plans. Dans le privé, c'est la même chose. Chacun cherche à coopter ses proches en leur faisant bénéficier de son réseau. Et puis, de toute façon, ce Avocha est gonflé de venir décerner des droits d'installation aux oreilles à La Réunion, alors que lui-même vit chez eux à Toulouse, comme je l'évoquais précédemment.
Ce serait pas vous le problème ?
Et après ce Avocha, la vidéo revient sur l'histoire de l'influenceuse connasse et les réactions de Réunionnais suite à cette dernière. Vous réalisez qu'il est censé s'agir d'une enquête qui se veut journalistique. Et pourtant, on en est à 15 minutes de vidéo, et tout ce qu'on a, c'est une enquête à charge, à ressasser des réactions au mieux excessives, au pire xénophobes de rageux ayant un flagrant complexe d'infériorité. Arrivé à 18 minutes, les journalistes d'ANK ont enfin un métropolitain en face d'eux. On pourrait croire à un début d'équilibre, mais ne vous y trompez pas. C'est là que la douille est la plus grosse. Ils ne nous présentent pas un témoin, ils nous présentent une caution. Ils ont déniché un profil particulier. Un animateur radio, influenceur de son état, qui a compris comment le jeu fonctionne. Tiens, petite parenthèse, je me disais bien que sa tronche me rappelait quelque chose. Florian Henner était allé manger réunionnais chez ce mec et sa copine réunionnaise à Paris il y a 9 ans de ça.
Donc je vous présente Hélène.
Hello.
Et Calou.
Hello.
Alors, ça sent le rougail d'ici.
Ouais, mais pas que.
Mais pas que.
Non, on va te faire grossir.
C'est vrai ? Oh non. Ouais.
Écoutez bien son discours, c'est un modèle de soumission intellectuelle.
Tu veux venir vivre à La Réunion ? Eh ben viens pas.
J'ai vu un peu cette hostilité envers les oreilles, que je comprenais pas. C'est pas juste, pourquoi ? Enfin, je comprends pas. Et donc du coup, je me suis posé la question. Et en fait, en me posant un peu la question et en voyant un peu les attitudes de certains oreilles, j'ai compris. C'est-à-dire qu'effectivement, je l'explique bien dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a tout ce passé colonial qui laisse forcément des traces.
Il commence par une concession. En gros, si tu viens pour être un connard, reste chez toi. Une petite phrase pour flatter l'auditoire et pour se donner un air de légitimité. Mais derrière, il s'engouffre dans la grille de lecture imposée par le reportage. Il nous raconte que ses difficultés d'intégration initiale étaient finalement justifiées par le comportement de certains autres métropolitains, et bien sûr, par le passé colonial.
What ?
Bon, bref. En fait, ce qu'il raconte n'a aucun putain de sens. Au début, il n'aurait pas compris l'hostilité à son égard, puis en voyant le comportement problématique de certains oreilles, il aurait fini par comprendre. Attends, le mec remet en question son impression initiale et finit par changer d'avis, et par en tirer des conclusions générales à partir de certains cas, c'est-à-dire des cas minoritaires ? Ça n'a aucun putain de sens. Bref, comme je le disais, ce mec est une caution, un idiot utile. Et les gars, regardez, c'est un oreille qui le dit lui-même, c'est pas nous. Franchement, s'il y a bien un truc qui m'insupporte bien plus que les oreilles méprisants, c'est les oreilles qui font du zèle et qui aiment sucer des sgegs. Ensuite, à 25 minutes, ils égrènent pendant 2 longues minutes des chiffres sur les difficultés chroniques à La Réunion. Chômage, mal logement, etc. Là encore, je sens la douille arriver. Au début de la vidéo, ils ont bien insisté sur ces oreilles qui ont un mauvais comportement, puis deux oreilles caution qui confirment que les oreilles sont des connards, puis les chiffres des difficultés réunionnaises. Je sens la bascule arriver. Le moment où ils vont nous expliquer que tout ça, c'est la faute des oreilles finalement.
C'était donc ça, ouais.
C'est là qu'ils sortent de leur chapeau, El Famoso Expert. Un professeur en sciences économiques à l'Université de La Réunion, la figure d'autorité qui va probablement nous expliquer avec des mots savants qu'effectivement, les oreilles est bien la cause de tous nos malheurs. Regardez ce tour de passe-passe.
L'arrivée des populations métropolitaines, avec un certain type de pouvoir d'achat, va impliquer une tension sur la demande d'un certain type de logement, une typologie de logement, soit des grands logements, soit des logements également localisés à des endroits de l'île fort connus pour avoir une forme d'attractivité pour les populations nouvellement arrivées.
Plus balnéaire.
Plus balnéaire. Et donc on va observer sur ces régions une pression davantage à la hausse sur la demande et donc sur le prix des logements.
Le professeur en économie pointe la spéculation immobilière et accuse les nouveaux arrivants d'en être le moteur. C'est l'argument classique pour alimenter le ressentiment. Mais il évacue, volontairement ou non, le vrai cœur du problème, le manque dramatique de logements sociaux. Il mélange deux marchés distincts qui ne se croisent pas. Les métropolitains dont il parle s'installent sur un segment de marché de standing. Un segment qui n'est pas le premier choix, ni même le recours des réunionnais les plus modestes. En accusant ses arrivants de faire monter les prix, il détourne les yeux du spectateur de la véritable urgence, l'échec de la politique du logement social et la responsabilité des acteurs locaux dans la gestion du foncier. C'est plus facile de désigner un étranger comme coupable de la hausse des prix que d'expliquer pourquoi les bailleurs et les promoteurs locaux, main dans la main avec certains élus, ont laissé le parc social se dégrader ou stagner. C'est une erreur d'analyse économique grossière, mais une réussite politique totale pour ceux qui veulent vendre de la division. C'est la confirmation définitive, ce n'est pas une interview, c'est une mission commandée. Un professeur en économie qui analyse le marché immobilier d'un territoire sans mentionner la part du logement social, c'est comme un médecin qui diagnostique une douleur au ventre sans jamais demander au patient s'il a mangé quelque chose. La conclusion est biaisée par construction. En omettant le logement social, il a supprimé la seule variable qui permettrait une analyse honnête. Il a transformé une question de politique publique, comment loger tout le monde, en une question de bouc émissaire, trop d'étrangers avec trop d'argent. La séquence qui suit est elle aussi très intéressante.
Pendant longtemps, les métropolitains ont été perçus comme plus aisés que les réunionnais, en raison de niveaux de qualification et de responsabilité plus élevés.
La phrase de transition. Pendant longtemps, les métropolitains ont été perçus comme plus aisés que les réunionnais, en raison de qualifications et de responsabilités plus élevées. Vous sentez la douille arriver ? Moi oui, ils parlent au passé. Il va probablement nous expliquer qu'aujourd'hui, les réunionnais ont élevé leur niveau de qualification, mais qu'il y a encore des injustices, et donc, qu'il y a bien une raison qui explique ces injustices persistantes, aka le privilège d'oreille. Et j'ai vu juste. C'est précisément ce qu'ils font en revenant aussitôt aux pseudo-experts.
Le marché du travail continue à être segmenté. On voit bien que sur un certain type de métier ou de responsabilité, lié soit à la fonction publique, soit à un certain type de responsabilité par des filiations au niveau entrepreneurial, il existe encore des canaux, je dirais pas d'acheminement, mais des canaux facilitant l'arrivée de ces populations à haut niveau de qualification et formation de métropole. Ce qui semble suggérer que pour certains types de populations réunionnaises ou résidant depuis fort longtemps, qu'elles soient réunionnaises ou pas, ce même canal n'est pas aussi accessible.
Notez la sémantique utilisée. On voit bien que, ce qui semble suggérer que, il est censé nous éclairer avec des données, mais il nous sert du ressenti saupoudré de jargon. Quand il parle de canaux d'acheminement, il ne fait pas de l'économie. Il fait de la théorie du complot. En plus, il évoque la fonction publique. Mais il parle de quoi ? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire ? Déjà, comme je l'évoquais plus tôt, toutes les administrations proposant des missions de services publics de type sécurité sociale, CAF, URSSAF, etc., embauchent massivement localement, par piston bien souvent. De quoi il parle alors ? Du fait que la majorité des profs à La Réunion soient des oreilles ? Que viennent faire ces histoires de canal d'acheminement dans un système basé sur des concours et un système de points engrangés avec l'expérience? Le reportage ne cherche pas à expliquer le chômage ou les problèmes de logement. Il cherche à justifier la frustration en désignant un ennemi imaginaire. Cet expert est l'allié des auteurs de ce reportage. Par ses hésitations, son vocabulaire flou et son absence totale de rigueur, il est devenu le symbole de la malhonnêteté du reportage.
En revanche, pour un certain nombre de fonctions dans des grandes entreprises, on voit bien qu'il y a bien entendu un mécanisme de cooptation, on va dire, permettant d'accès à ces postes de responsabilité.
Ah mais non, je suis bête. On voit bien qu'il y a un phénomène de cooptation concernant les postes à responsabilité. Voilà, j'ai compris. Les oreilles sont privilégiées parce qu'ils ont un réseau et se cooptent entre eux aux plus hautes fonctions.
C'était donc ça, ouais.
Posez-vous une seconde pour réfléchir à ce que nous venons d'entendre. Un professeur d'université, un homme dont le métier est d'enseigner la rigueur et l'analyse des chiffres, nous sort une théorie sur la cooptation des postes à responsabilité. Mais où est l'étude ? Où sont les données ? Où est le recensement des profils, des diplômes, des expériences, ou même la simple analyse du nombre de recrutements en externe versus promotion interne, etc. Rien, zéro, pas un chiffre. Sa seule preuve, son argument scientifique ultime, c'est « on voit bien que ». Traduction, je n'ai aucune preuve, mais mon préjugé suffit à faire office de démonstration.
Non mais c'est nul.
Sur l'accès à des fonctions importantes, il ne tient qu'aux grandes administrations de montrer l'exemple, selon l'économiste, et d'avoir l'audace de nommer des réunionnais à des postes à responsabilité.
Cette phrase est vicieuse. Le journaliste vient de faire une bascule classique du constat factice à la préconisation politique. En une phrase, il transforme une accusation sans preuve en un impératif moral. Voici pourquoi cette formulation est une arme. Ils ont utilisé un expert pour valider une hypothèse bancale, la cooptation des oreilles. Maintenant, ils utilisent cette hypothèse pour exiger une action. Il faut nommer des réunionnais. Le spectateur n'a plus besoin de se demander si le problème de cooptation existe réellement. Puisque la solution est posée, le problème est forcément réel. C'est un raisonnement circulaire. C'est le point le plus pernicieux. En réclamant de l'audace pour nommer des réunionnais, il suggère en creux que les personnes actuellement en poste majoritairement des métropolitains dans leur récit n'y sont pas par mérite, mais par défaut.
Des cerveaux malades !
Il délégitime d'un coup la compétence de tous ceux qui ont accédé à ces postes par la voie normale, qui, je le rappelle, est un constat fondé sur la seule base de « on voit bien que ». On revient à l'expert qui nous explique avec tout un charabia managérial ce qu'il faudrait faire pour casser cette dynamique. Dynamique qui n'a jamais démontré en amont.
Cette ascension doit continuer vers les postes à plus haute responsabilité, ce qu'on qualifierait des postes à responsabilité stratégique, parce que cela permettra de stimuler davantage aussi ceux qui sont dans ce parcours, comme quoi, après le premier étage et le deuxième étage, le troisième étage également peut être conquis, ce qui stimulera cette envie de s'engager et de s'investir pour le territoire, mais aussi pour la République.
Encore une fois, je sens la douille arriver et je me demande quand est-ce qu'il va poser ses couilles sur la table et nous dire le fond de sa pensée. Oui, car il n'y a pas 50 issues à sa démonstration. Soit il est en train de nous expliquer que le système est corrompu à l'initiative du Zorey et donc à son avantage, et là on est dans la théorie du complot, soit il souhaite une discrimination fondée sur l'origine géographique, ce qui serait contraire à notre modèle républicain. Bref, on en est à 33 minutes de vidéo sur 48 et je me pose la question, où vont-ils nous emmener jusqu'à la fin de la vidéo ? On a eu tour à tour la déferlante des messages de haine sur les réseaux sociaux pour bien nous expliquer qu'il y a un vrai problème Zorey à La Réunion. Quelques exemples triés sur le volet de mauvaises oreilles s'étant mal comportées à La Réunion, l'humoriste raté qui n'assume pas sa xénophobie anti-oreilles, la caution du bon oreille qui fustige ses propres collègues oreilles, l'expert qui fonde toutes ses théories sur la base du « on voit bien que », eh bien, on repart sur une caution d'autorité. Ils sont allés rencontrer le directeur de l'INSEE Réunion Mayotte. Pendant de longues minutes, c'est un bombardement de chiffres complètement hors sujet. Le but ? Nous submerger afin de nous faire perdre notre vigilance. L'INSEE, c'est officiel et c'est sérieux, donc tout ce qu'ils vont dire est forcément vrai.
Oui, sans doute. Me voilà rassuré.
10 minutes avec le directeur de l'INSEE, une tentative désespérée de donner une caution scientifique à un préjugé. L'expert est resté factuel, le journaliste a échoué à obtenir sa phrase choc, et le spectateur s'est noyé dans les chiffres sans aucun lien avec leur thèse. C'est l'aveu d'impuissance. Quand on n'a pas d'argument, on noie le spectateur sous la technique. Le dernier intervenant est particulièrement déstabilisant. Enis Roquel, présenté comme historien d'origine brésilienne. Cet intervenant, c'est du pur sabotage. Regardez bien ce final.
Nous avons rencontré Enis Roquel, historien d'origine brésilienne. Marié à une réunionnaise, Enis se rend dans l'île dès 1973. Spécialiste de l'histoire de La Réunion, il publiera plusieurs livres chez nous. Aujourd'hui, il fait un parallèle très intéressant entre la relation des réunionnais avec les oreilles et la cohabitation entre les locaux et les maorés, un autre sujet qui est tout aussi explosif.
Il passe d'une attaque à peine voilée contre une communauté, les maorés, à un discours conciliant sur les oreilles en moins de 30 secondes. Pourquoi ? Pour sauver les meubles. Ils ont compris qu'ils avaient été trop loin. Alors, ils utilisent la figure de l'historien sage pour tamponner leur reportage d'un sceau de respectabilité. Ce n'est pas un reportage, c'est une opération de communication qui essaie de jouer sur tous les tableaux. Attiser la haine pour faire de l'audience, tout en prenant la paix pour éviter la censure. C'est le niveau zéro de l'éthique journalistique. Souffler le chaud et le froid pour maintenir le spectateur dans une confusion totale. Le constat est sans appel, ce n'est pas un travail journalistique. C'est un exercice de style visant à monter les communautés les unes contre les autres. Ils ont utilisé des experts, des chiffres et des témoignages, non pas pour expliquer une réalité, mais pour valider une colère qu'ils ont eux-mêmes contribué à attiser. Ce reportage est la preuve qu'en manipulant le montage, en sélectionnant ses témoins et en jouant sur les peurs les plus sombres, on peut transformer n'importe quel préjugé en fausse vérité. Avant de vous quitter, j'ai envie de partager mes impressions globales sur cette chaîne. Cette chaîne est suspecte à bien des égards. La forme est bien trop parfaite. L'image, les enchaînements, les codes journalistiques, la tonalité, les enquêtes de terrain, etc. Quelle chaîne YouTube locale sortie de nulle part peut espérer 55 000 vues en 3 semaines pour leur première vidéo sur un thème aussi régional ? quelle chaîne YouTube locale sortie de nulle part aurait dès sa première vidéo accès à un prof d'économie, un historien local reconnu et un putain de directeur de l'INSEE. Ces compétences et ce carnet d'adresses ne s'acquièrent pas en un claquement de doigts, mais au fil d'une longue expérience. Et surtout, ça coûte du pognon tout ça. C'est pas Poussin Créole qui bricole ses vidéos avec sa bite et son couteau.
Nous aimons suivre les chemins qui semblent ne mener nulle part. Nous sommes accueillis chaleureusement dans un hameau composé de quelques cases couvertes de chaume cernées par les cannes à sucre. Plusieurs familles y vivent. Des jeunes filles de la ville sont venues les visiter. Ils sont heureux de nous raconter leur vie, mais surtout le passé. L'histoire de leur ancêtre, arrivé en 1666 sur le bateau du marquis de Mondevergue qui transportait 32 jeunes filles. Après 12 mois de navigation, le bateau abordait enfin à Bourbon. 5 seulement avaient survécu au scorbut. Elles se marièrent avec des colons et fondèrent les premières familles françaises créoles. Les noms de ces premiers colons sont portés actuellement par de nombreux réunionnais. Créole, vieux français émaillé de termes de marine et rodé par des voix africaines ou asiatiques.